Moustaki, c'est mon frère.
Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Ah. Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
C'est la guerre dans les étoiles!
I use the force to punk motherfucker.
Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître.
Attention, tout de suite sur Ciné Cinéma Frisson, vous allez pouvoir redécouvrir le film le plus célèbre de toute l'histoire du cinéma, la genèse d'une saga indétrônable depuis 30 ans, le seul blockbuster que tout le monde, enfin presque, a vu au moins 250 fois et qui continue d'attiser les fantasmes de tous les geeks de la planète. Je parle bien sûr de la Guerre des Étoiles, devenue Star Wars, puis Star Wars épisode 4, un nouvel espoir, puis Star Wars épisode 4, un nouvel espoir, l'édition spéciale, et enfin Star Wars épisode 4, un nouvel espoir, l'édition spéciale dérivée de l'édition spéciale. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Merci Georges.
Et après les mecs qui te disent non, Georges Lucas il est sincère. Comment tu oses critiquer Star Wars? Tu n'as pas le droit.
Faudra bien un jour que les apôtres aveugles de Lucas admettent qu'à contrario du mythe qui sous-tend un vrai culte de la personnalité, le bonhomme, considéré comme seul responsable de la réussite de la saga, n'avait pas dès 1977 imaginé un univers d'une cohérence absolue,
En tout cas, qu'il n'en maîtrisait pas personnellement les tenants et les aboutissants.
Votre manque de foi me consterne.
Non. Si ce premier Star Wars fut une bombe au box-office, et surtout une œuvre aux thèmes universels, dans laquelle tout un chacun pouvait se reconnaître, c'est avant tout parce qu'elle faisait référence à des mythes codés et à des univers préexistants, et que l'élaboration de ce premier film est le fruit d'une équipe brillante et non d'un seul homme. Lucas était déjà un businessman en devenir qui savait avant tout parfaitement s'entourer. Alors on pourrait continuer à s'astiquer comme certains sur l'originalité absolue de l'univers dépeint, en réalité un agrégat de références empruntées au Nibelungen, aux films de sabre japonais, aux westerns et aux space opéra à la sauce Flash Gordon, la réalité est que les premiers scénarios écrits par Lucas lui-même étaient totalement ridicules.
Fais pas cette gueule-là, toi.
C'est vrai que t'as une sale gueule, d'ailleurs.
C'est grâce au jugement de ses amis de l'époque, Spielberg et Coppola entre autres, grâce à l'intelligence de plusieurs scénaristes avec qui il travaillait, et au génie de son démiurge producteur Gary Kurtz, que le Star Wars que nous connaissons a pu voir le jour. Mais si l'on doit accorder un crédit à George Lucas, c'est de s'être approprié les travaux de deux hommes hors du... Mais si l'on doit accorder un crédit à George Lucas, c'est de s'être approprié les travaux de deux hommes hors du commun. Tout d'abord, Ralph McQuarrie, ancien ingénieur de Boeing, qui imagina tout l'univers graphique du film, mais surtout Joseph Campbell, écrivain, philosophe et anthropologue autodidacte, quasi inconnu en France, qui développa la thèse du monomythe dans son célèbre livre « Le héros aux mille visages ». Alors ça, je suis obligé de poser le truc. Je sais que c'est un peu casse-couille, branlette intellectuelle, mais il faut le poser parce que c'est fondamental. Aujourd'hui, en France, quand on te parle d'anthropologie, les gens, ils se limitent à Lévi-Strauss. Partout dans le monde, et en particulier aux États-Unis, il y a un mec qui a émergé depuis 1949, qui était la publication du héros mille visages, et qui est devenu fondamental, qui s'appelle Joseph Campbell. Et qui est un type qui a réfléchi tout simplement sur les mythes et sur la façon dont chaque culture, quelle qu'elle soit, quelle que soit son époque, quel que soit le cadre de son environnement, a des principes de base de ses récits mythologiques. C'est-à-dire qu'au fond, il y a toujours un récit mythologique fondateur qui est le même pour toutes les cultures. Et dans son héros aux mille visages, qu'est-ce qu'il t'explique ? C'est qu'il te dit dans toutes les cultures, il y a toujours l'histoire d'un héros, d'un jeune héros, qui va partir, ce qu'il appelle l'appel à l'aventure. Il y a quelque chose d'extérieur qui va venir le chercher. Puis au départ, il va refuser de le faire. Et puis finalement, il va y aller. Et là, il va rencontrer un mentor. Et le mentor va le confronter à lui-même. Puis il aura des épreuves à passer, jusqu'à effectivement l'épreuve symbolique du meurtre du père. Donc il y a tout un schéma comme ça. Et quand tu le regardes sous cet angle, tu te dis que le monomythe, l'air de rien, il est un peu fondateur de tous les grands récits mythologiques du XXe siècle. Soit tu regardes Le Seigneur des Anneaux, c'est ça. Tu regardes Dune, c'est ça. Tu regardes La Guerre des Étoiles, c'est ça. Tu regardes Matrix, c'est ça. Enfin bon, voilà. Un livre que Lucas découvrit sur le tard et qui allait structurer thématiquement et narrativement toute la première trilogie Star Wars. Mais bon, on a beau avoir vu le film mille fois, c'est toujours aussi fun de se mater la tronche déboulonnée de R2-D2, le costume super kitschos de Schnoufbaka. Schnoufbaka ! Comment ça va ?
Oh,
ça va bien ? Et la fight finale sur l'étoile de la mort qui n'a pas pris une ride.
Ah non, mais en même temps, on n'est pas potes, hein. Normalement, je te nique la gueule. Je t'ai niqué, Schnoufbaka!
T'es trop fort, Nico. Râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux.
Tu ne peux pas t'échapper, ne m'oblige pas à te tuer. Tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie.
Je ne serai jamais votre allié.
Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur.
L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux.
Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué.
Non, je suis ton père. C'est vrai.
Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois.
Non ! Non !
Luke, tu peux détruire l'empereur. Il l'a prévu. Tel est ton destin. Sois mon allié et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils.
En pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous.
Tout de suite, ah non, putain, ça me casse les couilles. Tout de suite sur Ciné Cinéma Frisson, on s'attelle à la suite d'un des plus gros cartons de l'histoire du cinéma. Je parle bien sûr de Star Wars Episode 5, l'Empire contre-attaque, le chapitre le plus tragique et le plus shakespearien de la saga, mais aussi celui qui, d'un commun accord, est considéré par les fans comme le meilleur. Hélas, n'en déplaise aux adorateurs de Lucas, là encore, et plus que sur n'importe quel autre opus des deux trilogies, la grande réussite du film est moins à mettre au crédit du grand Big George que de ses plus proches collaborateurs. Ok ?
Je suis le bad motherfucker du fin fond de la galaxie, quoi !
Oh merde, qu'est-ce qu'on est venu faire ici ?
En effet, suite au carton cosmique du premier Star Wars, et face à la possibilité de gagner son indépendance vis-à-vis des studios, Lucas se lança à l'époque dans une aventure folle, bâtir un empire cinématographique autonome, capable de produire des œuvres ambitieuses sans aide extérieure.
Ça, c'est intéressant.
Un pari d'autant plus réaliste que Lucas avait su récupérer à son seul bénéfice les droits sur le merchandising de Star Wars, idée loufoque pour l'époque, qui allait s'avérer extrêmement lucrative.
Hé, hé, Chewbacca, bouge un poil sur ta gauche.
Oh putain, il est nul lui.
Du coup, fasciné par son nouveau boulot de producteur-entrepreneur omnipotent, Lucas
confia la production de L'Empire Contre-Attaque à Gary Kurtz, la réalisation du film à Irving Kirchner, un de ses anciens profs, et le scénario à Lee Brackett, puis à Lawrence Kasdan, qui imagina pour beaucoup le script que nous connaissons. Du coup, ce sont les collaborateurs de Lucas, investis et fortement inspirés par le travail sur les mythes effectué par l'écrivain Joseph Campbell, qui sont en réalité les vrais créateurs de l'Empire Contre-Attaque. Non pas que le mec ait pas participé, parce qu'on sait très bien qu'avant que le film soit mis en production, lui et Kasdan s'étaient réunis pour donner les grandes lignes du scénario. Par contre, ça fait partie des grandes questions que les fans se posent. On ne sait pas si, par exemple, le rebondissement fondateur de ce film, c'est Luke, je suis ton père. On ne sait pas si c'est Kasdan ou si c'est Lucas.
Vide ton esprit de ces questions.
Le seul génie de Lucas sur ce film, à ne pas sous-estimer néanmoins, est d'avoir eu les coronesses d'investir toute la thune qu'il avait gagnée sur Star Wars et d'avoir donné toute sa confiance à ses collaborateurs les plus doués. Et pendant que Kurtz et ses hommes, malgré des galères de tournage, étaient en train de concevoir l'épisode le mieux écrit, le mieux réalisé et le plus intelligent de toute la série, Lucas se débattait en Californie pour monter son empire. Une vérité que beaucoup de fans ne veulent pas entendre et qui porte à réflexion sur son implication artistique réelle.
Je suis vraiment navré de cet incident, mais après tout, ce n'est qu'un rookie.
Tu le vois celui-là ? Preuve d'ailleurs de cette réalité, Lucas piqua une colère folle en voyant le premier montage du film, se sentant dépossédé de son œuvre et décida de le remonter. Mais face à cette seconde version, que tous ses collaborateurs rejetèrent, il dut se plier à leur avis. La confiance de César pour ses subalternes était toujours là, mais elle commençait à s'effriter. À la sortie du film, le clash se produisit et Lucas coupa les ponts avec Gary Kurtz et avec nombre de ses collaborateurs.
Et tu n'as plus entendu parler de Gary Kurtz ? Quand on a évoqué le terme de purge stalinienne, il y a un moment donné, c'est ça quoi. C'est Lucas, tous les mecs qui à un moment donné l'ont contesté, à partir du moment où il s'est senti dépossédé de son œuvre, les a rayés de la carte. C'est quand même assez hallucinant. Des mecs qui étaient à des postes aussi importants à ce moment-là, qui ont travaillé sur les deux plus gros blockbusters de l'histoire, qui en ont apporté la quintessence, du jour au lendemain, il y a eu un clash avec Lucas, et ces mecs, tu les vois plus.
In a moment of a thousand helping. I am not beyond the sacred or sycophantic rites. In a moment of a wilderness exposed, is this lack of wisdom better than a charismatic soul? And I'm bringing up blue horse meat, thinking that I've lost control. Do I have power? Do I have power? Do I have power over it? Do I have power? Do I have power? Do I have any power over it? For a moment, can I just pretend you're mine? Would it kill you now to placate my chauvinistic mind? For a moment, is my horse hollow gone? Bring the hypnotist back here to get me through another song. And I'm bringing a blue horse meat, wondering where I went wrong. Do I have power? Do I have power? Do I have power over it? Do I have power? Do I have power? Do I have power?
C'est intéressant pour les fans, comme pour les détracteurs, on peut tous trouver des choses bien, pas bien dans les Star Wars, avec le recul ou sans le recul, mais au bout d'un moment, il suffit de te dire, ouais voilà, tout le monde est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. C'est le meilleur épisode. Ok, pourquoi ? Pourquoi c'est le meilleur épisode ?
Celle-là, elle est bien, celle-là.
La fin, là,
Hein, hein, celle-là, celle-là, même les hardcore, ils vont faire. Hein.
Ah ouais. Oh. Tu fous la merde partout.
Désormais seul au sommet de sa montagne d'or, ne supportant plus que quiconque conteste ses choix, nouveau bâtisseur d'empire tyrannique, Lucas allait reprendre les rênes de sa saga, pour le résultat que l'on sait, bourré d'ours en peluche, cucul à praline. Faites-vous plaisir et replongez donc dans cet opus ténébreux, aussi touchant que spectaculaire, qui incarne ce que toute la saga aurait dû être.
Non, alors il est beaucoup plus grand, Chewbacca, je crois qu'il est plus grand que tout le monde. Bah ouais. Toi, t'es tout petit, toi.
Din, 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 din. Tu veux te fêter le Wookiee?
Bienvenue, jeune Skywalker. J'attends ta visite depuis longtemps.
Star Wars épisode 6, le retour du Jedi ou The Return of the Jedi. Une œuvre contradictoire, hybride, encore empreinte du travail mythologique effectué par ses collaborateurs sur les deux premiers opus, mais qui vire progressivement à la pantalonnade. Pour beaucoup de fans, le film portait déjà les prémices de l'altération future de la saga.
J'ai comme l'impression qu'on est mal embarqué.
En fait, tu sais à quoi ça me fait penser, le retour de Jedi ? Ça me fait penser à ce truc que tout le monde a oublié. Un épisode pour la télévision américaine qui s'appelait Un Noël chez les Wookiees ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Et qui était un truc fait pour les mioches. Avec, mais hallucinant, où tu voyais maman Wookie qui était en train de faire des cookies dans sa cuisine avec des petits Wookie, et t'as le papa Wookie qui arrivait, puis t'as Yann Solo, t'as tout le monde qui venait là. Et déjà là, tu pouvais commencer à te dire, oh putain, il y a des petits problèmes quand même dans le truc, tu vois.
Oh, tu peux rire, boule de pluche.
La sortie de l'Empire Contre-Attaque eut beau confirmer l'impact hallucinant de Star Wars dans l'imaginaire populaire, elle fut en interne marquée par une rupture entre George Lucas et les collaborateurs de la première heure, le producteur Gary Kurtz en tête, qui fut pourtant le principal responsable de la dimension puissamment mythologique de la saga. Désormais l'un des hommes les plus importants de l'industrie cinématographique, Lucas était obsédé par l'élaboration de son futur empire industriel, devenant lentement le type même du costard-cravate intraitable qu'il avait toujours détesté à ses débuts. Petite preuve de ça, c'est une période où le mec, plutôt que de préparer le retour de Jedi, il enchaînait les procès. Hein. Procès contre les syndicats, procès pour plagiat et plein de trucs. Il était à fond dans le business. Je continue.
Sers-toi de tes sentiments agressifs, mon garçon. Laisse-toi envahir par la haine.
Obi-Wan, t'as bien formé.
Je ne veux pas me battre avec vous, père.
C'est imprudent d'abaisser ta garde.
Vos pensées vous trahissent, père. Je ressens le bien en vous. Le conflit.
Il n'y a pas de conflit.
Vous n'êtes pas arrivé à me tuer avant. Je ne crois pas que vous me tuerez maintenant.
Tu sous-estimes le pouvoir du côté obscur. Si tu refuses de te battre, tu devras affronter ton destin. Tu ne pourras pas te cacher éternellement, Luke.
Je ne veux pas vous combattre.
Abandonne-toi au côté obscur. C'est le seul moyen que tu as de sauver tes amis. Oui, tes pensées te trahissent. Tes sentiments pour eux sont forts. Surtout pour... ta sœur. Ainsi, tu as une sœur jumelle. Tes sentiments l'ont maintenant trahi. Elle aussi. Obi-Wan a été sage de me la cacher. Maintenant,
son échec est total. Si toi, tu ne passes pas du côté obscur, peut-être elle le fera.
Considérant qu'il s'était fait déposséder de son œuvre par Gary Kurtz et par le réalisateur Irving Kirchner sur l'Empire Contre-Attaque, Lucas, toujours peu désireux de s'investir en tant que réalisateur, décida cette fois de confier le tournage du Retour du Jedi à un yes-man appelé Richard Marquand et le scénario à Lawrence Kasdan. Sauf qu'il était hors de question que l'on aille à l'encontre de ses choix. Aussi absurde pouvait-il être.
Je suis désolé, mais il est malheureusement très têtu pour ce genre de choses.
Là où Kasdan et d'anciens collaborateurs souhaitaient clore le film en appuyant de nouveau sa dimension mythologique, ce qui devait aboutir à la mort de Han Solo et au meurtre symbolique du père, sans empereur pour tuer Dark Vador par exemple, Lucas préféra appuyer le manichéisme du récit et imposa qu'on ajoute de ridicules Ewoks, qu'on laisse vivre Han Solo et que Dark Vador devienne au final mignon de tout plein en sauvant son fils des griffes de l'empereur.
Ta haine t'a rendu beaucoup plus puissant. Maintenant, accomplis ton destin et viens prendre la place de ton père à mes côtés. Je ne viendrai jamais du côté obscur. Vous avez échoué, votre Altesse. Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. Tant pis pour toi, Jedi. Si tu ne deviens pas l'un des nôtres, tu seras éliminé.
Moustaki, c'est mon frère.